9h, 11h,
Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Ils ont quand même le chic, les Britanniques, pour trouver instantanément le mot qu'il faut. Depuis hier, 14h45 heure de Londres, on peut parler de Brexmas. Comprenez, Brexit for Christmas. Il y a eu deal in extremis, un accord post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et l'on a entendu un Boris Johnson survolter au pied du sapin.
I want to say something about the meaning of Christmas, because I've never known a Christmas like it. Not in my lifetime, and I bet not in yours either.
Bonjour Alex Taylor.
Bonjour Pascal Clark.
Je n'ai jamais connu un Noël comme ça, vient de dire le Premier ministre britannique Boris Johnson. Est-ce que pour vous, Alex, journaliste européen, citoyen franco-britannique, c'est la même chose? C'est un Noël incroyable avec ce deal-là?
Alors si on était des journalistes cyniques, ce que l'on n'est déjà pas en temps normal, Pascal, mais surtout pas pour Noël, on dirait que peut-être le deal a été mijoté exprès un 24 décembre à 16h pour qu'aucun journaliste n'ait le temps de le lire et encore moins l'envie de le commenter.
Oui, d'accord.
C'est un peu ça, enfin, c'est il va y avoir une journée de débat au Parlement britannique pour quelque chose qui va... régler les affaires commerciales du continent pendant des générations. Donc c'est très last minute. Moi, je pousse, comme tout le monde, un ouf de soulagement parce que depuis 5 ans que moi, par exemple, je suis obsédé par le Brexit, beaucoup les médias britanniques, la scène politique britannique un peu moins en Europe, mais vous branchez une télé, Brexit, 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 Donc là, si la langue anglaise avait l'équivalent de ouf, ce qui malheureusement
n'existe pas.
N'a pas, je pousserais un ouf, c'est fini, mais dans un sens réel, ça ne fait que commencer, hélas.
Alors, Alex Taylor, physiquement, cet accord signé représente 1500 pages en comptant les annexes, ça s'appelle un gros pudding. Il faudra effectivement un petit peu de temps parce qu'on est à Noël. Quand même, vous avez lu la presse britannique en ligne ce matin et que dit-elle? Qui a gagné?
Bah, le problème, la presse britannique que vous citez, vous êtes bien placé pour savoir, parce que tous les deux on se côtoyait en faisant des revues de presse.
D'autres temps, oui.
D'autres temps, donc on avait l'habitude. Le problème de la presse britannique a toujours été, même il y a longtemps, qu'elle n'est pas très objective. 80%, par exemple, de la presse britannique était pour le Brexit. Il y a que quelques rares titres, comme The Guardian... qui était contre le Brexit, mais la vaste majorité des journaux, il n'y a qu'à regarder cette semaine les insultes proférées contre le président Macron et contre la France de manière générale, quand la France a décidé de faire justement ce que les Brexiteurs disaient que les pays européens ne peuvent pas faire, c'est-à-dire prendre le contrôle de leurs frontières et décider de fermer ces frontières pendant quelques jours, parce que le premier ministre du pays voisin a annoncé qu'il y avait un virus mutant dans son pays.
Donc voilà.
La presse britannique est pas très... Vous avez des journaux, mais un énorme tirage, comme The Sun, qui tirait à l'époque à 3 millions. Maintenant, avec Internet, je pense que c'est plutôt 1,5 en termes de tirage papier.
Les fameux tabloïds.
Oui, les tabloïds. Mais pas que les tabloïds. Vous prenez un journal comme The Telegraph, qui autrefois fut un journal assez sérieux, et qui maintenant lance des diatribes, mais qu'on lirait pas dans la presse d'un autre pays. Quelque chose qu'on oublie souvent en France, c'est le fait que d'autres pays n'ont pas cette presse.
Ça sonne chez vous, mais c'est pas grave. Vous ne répondez pas, surtout. C'est chez vous que ça sonne?
Non, absolument.
Ah, d'accord. Oui, pardon, je vous ai interrompu. Donc la presse a 80% en faveur du Brexit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse, même si, encore une fois, on est un jour férié, donc c'est pas évident, mais en ligne, cette presse-là exulte ce matin, quand même?
Ah oui, parce que les Brexiteurs sont très contents, ils ont l'impression d'avoir gagné sur toute la ligne. Et ce n'est pas faux, ils ont eu leur Brexit, mais quand on regarde le contenu de ce deal, c'est vrai que dans le fond, il n'y a pas énormément de choses. Moi, je ne peux pas vous dire que j'ai passé ma soirée de Noël à égrener quand même 2000, parce que je crois que ça dépend de quelle taille on met sur le font, mais 2000 pages ou 1500, écrit plus petit. J'ai cherché quels sont les avantages et les désavantages. Je peux vous faire les avantages en 30 secondes si vous voulez, mais il faudrait peut-être 5 heures pour faire les désavantages pour la Grande-Bretagne.
Mm-hmm. Alors bon, c'est vrai qu'on a, on a du mal à voir ce que représente ce texte. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Est-ce que vous êtes capable de le dire, Alex Taylor? Bon, principalement, c'est le sort des maquereaux et des harengs, ce sont les zones de pêche, non?
Même pas des, le flétan. Il a fallu même que, après 40 ans en France, que je cherche la traduction française pour halibut. Alors, non. Les Britanniques, dans 5 ans et demi, ont le droit de pêcher un peu plus, 25% de plus de flétan dans 5 ans et demi.
Voilà. On est content pour eux.
C'est un énorme avantage. Les Européens ont perdu un peu de pêche, c'est vrai, mais dans 5 ans et demi. Puis, de toute façon, tout ça s'est remis au calendrier grec parce que, pour éviter ce dossier ô combien sensible, ils ont décidé de tout régler progressivement par la suite, si vous voulez. Donc, il y a un peu plus de flétans et de harengs qui reviennent aux Britanniques.
D'accord.
Ça, c'était le côté positif que j'ai trouvé dans 2000 pages. Je voulais maintenant le côté qu'on démarre sous le côté négatif.
Bah non, parce que vous m'avez dit que ça allait prendre 10 heures, donc non, on n'a pas le temps, Alex Taylor.
Je peux lister quelques... juste un exemple. On parle des pêcheurs. Il n'y a pas eu un seul bulletin d'information en Grande-Bretagne qui n'a pas parlé des pêcheurs. C'est très important. Moi, je viens d'un petit port de pêche en Grande-Bretagne. Je sais à quel point c'est important pour les 12 000 personnes qui sont des pêcheurs en Grande-Bretagne. C'est hyper important. On n'a pas parlé, en revanche, du passeport financier. 80% de l'économie britannique, ce sont les services que les Britanniques vendent,
oui.
Tous les services,
oui.
Bancaires, assurances, etc. 80%, c'est ça qui finance les hôpitaux en Grande-Bretagne. Mm-hmm. Eh bien, ils ont perdu le passeport automatique pour vendre leurs services en Europe. C'est une énorme perte par rapport à la pêche. Ça représente beaucoup d'impôts. Et sur un pays aussi qui est sur le bord de la plus grande récession depuis 300 ans avec la Covid. Mm-hmm. Donc, vous voyez, ça...
Ouais. Ouais.
C'est une énorme perte, mais dont personne ne parle.
Oui, oui. Sinon, on parle évidemment, ce sont des petits symboles, mais qui sont importants. Il n'y aura plus d'Erasmus au Royaume-Uni, ces échanges.
Bah, ce n'est pas un petit symbole, cher Pascal. Moi,
mais ce n'est pas non plus un truc, vous voyez, géopolitique majeur, mais c'est fini à nous, les petites Anglaises, ça c'est terminé.
C'est absolument terminé. Ouais. Mais, dans un sens plus large, pourquoi je suis en France? Moi, ça fait 40 ans que je suis en France.
On va en parler. Je voulais vous parler de vous, mais si vous le permettez, Alex Taylor, on va marquer une petite pause. Et puis, on va parler de trois personnages dans la deuxième partie. On va parler de Boris Johnson, on va parler de la reine d'Angleterre, et puis on va parler de vous. Ça vous va?
Ouais. Ça me va très bien.
À tout de suite. Et nous sommes toujours, j'entendais une petite musique, vous voyez, moi je suis tradien, j'attends la musique pour démarrer. Nous sommes toujours en compagnie du journaliste européen, voilà, il faut dire le journaliste européen, Alex Taylor. Alex, oui, d'abord parler de cet homme un peu spécial, disons, spécial et décoiffé, installé au 10 Downing Street, Boris Johnson. Quelle attitude des journaux britanniques envers lui? Il y a une grande bienveillance, on peut dire ça, non?
Bah, c'est un ancien journaliste, il a beaucoup de copains dans le milieu journaliste. Il était chroniqueur au Télégraphe, ou d'ailleurs, c'est lui qui a commencé tous les mensonges sur les bananes courbées. Enfin, je reviens pas là-dessus, mais il a été viré du Times pour avoir menti sur l'Europe. Il était correspondant à Bruxelles. C'est un journaliste. Ce qu'il sait très bien
faire, c'est vendre
des messages.
Alex, peut-être qu'un journaliste peut moins mentir qu'un homme politique, c'est ça l'histoire?
Oh ben c'est pas le cas. Hein. Par exemple, vous parliez d'Erasmus. Regardez sur mon compte Twitter d'hier, j'ai mis l'extrait où, au début de l'année, Boris Johnson, au Parlement, on n'est pas censé mentir, dit il n'est pas question que la Grande-Bretagne quitte Erasmus. C'est des sottises. Nos étudiants vont pouvoir continuer à étudier. Ah ben, du coup, Michel Barnier a dit très clairement hier, la Grande-Bretagne a décidé de ne plus être dans Erasmus.
Voyez, faut pas croire tout ce qu'on raconte. Avez-vous entendu, Alex Taylor, cette chanson qui paraît-il cartonne dans les charts britanniques? J'en sais rien, moi, en cette fin d'année. Elle est interprétée par un groupe qui s'appelle Kunz. Écoutez. Bon, On va pas traduire, mais on voit bien l'idée, c'est assez insultant.
Cunt, c'est bien, parce que si on était à la BBC, je pourrais pas dire ce mot, mais je peux le dire.
Allez-y.
Puisque nous sommes en une radio. Cunt, voilà, ah, oui, ça me fait plaisir de pouvoir dire ça à une radio. Parce que...
Donc il y a quand même des groupes qui chantent que Boris Johnson est un sacré con, pour y aller franchement.
En gros, c'est ça, oui.
Non, parce que ça fait penser que culturellement, en tout cas, les groupes se sont toujours beaucoup exprimés au Royaume-Uni, notamment sous Margaret Thatcher. On a eu des films, on a eu des bons films, des bons albums. Vous croyez que ça va venir ?
Bah, c'est pas seulement que ça va venir, bah, c'est là. Il faut jamais oublier, Pascal, que la moitié presque des Britanniques ont voté contre ce Brexit.
Oui.
La moitié plus ceux qui n'avaient pas le droit de vote. Je rappelle toujours, parce qu'il y a beaucoup de Français qui me reprochent à longueur de temps, vous ne respectez pas le vote démocratique de votre peuple. Mais quand je leur dis, bah, vous savez qu'il y avait 1 million de Britanniques, de citoyens britanniques comme moi, qui étaient exclus du vote, d'ailleurs, et qui avons perdu nos droits, nous qui vivons
Pourquoi ?
Dans l'Union. Bah, parce que les Britanniques qui vivent depuis plus de 15 ans dans l'Union européenne n'avaient pas le droit de voter dans un référendum qui nous a enlevé nos droits.
Mmh.
Vous imaginez ? La France a quand même 11 députés pour tous les Français qui vivent à l'étranger.
C'est
vrai. Justement, dans un référendum qui nous a enlevé nos droits, on n'avait pas le droit de vote. Ça n'aurait pas été important si c'était 80 contre 20. Mais là, c'était même pas 52-48, vous voyez. Ça aurait fait la différence.
Vous...
Donc voilà.
Vous, Alex Taylor, qui êtes né, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans un petit port des Cornouailles, c'est ça ?
Bah, je suis né au nord de Londres, mais l'air était tellement mauvais que mes parents m'ont emmené vite fait en Cornouailles. Donc je suis un peu corniche, ouais.
Est-ce que personnellement, aujourd'hui, vous êtes bien content d'avoir acquis, il y a quelques années, la nationalité britannique ? Sinon quoi, vous vous sentiriez vraiment...
Française, vous voulez dire.
Pardon, française, oui, n'importe quoi.
Britannique, je l'avais déjà.
Bah, bien sûr, française. Sinon quoi, vous vous sentiriez isolé aujourd'hui ?
Je suis, vous savez, c'est l'un des jours les plus fiers de ma vie, hein. C'est quand j'ai acquis la nationalité française. Vous voulez que je raconte une, vous savez comment je l'ai eu?
Non.
Mon entretien d'assimilation, vous savez pourquoi je l'ai eu?
Non.
Parce que on a un entretien. Et pour une fois dans ma vie, j'espérais qu'elle aime bien. Ah, vous écoutez la radio, je vous vois à la télé, mais pas du tout. Elle m'a pas reconnu du tout. Mais elle m'a demandé si où j'avais habité en France. Et j'avais dit que j'habitais dans un endroit qui s'appelle Courvier-sur-Eure. Elle m'a dit, ah, mais j'ai une maison dans le coin. Je dis, ah bah vous devez connaître le super du coin. Et là,
ça tient, hein.
et je lui dis, on est d'accord, les caissières sont très sympathiques. Et là, je l'ai vu cocher un petit truc. Et à mon avis, c'était assimilation. Voilà. Et donc, je suis assimilé à cause des caissières du super rue de Courvier-sur-Eure. C'était... quand j'ai tenu ce passeport, parce que d'abord ce pays qui m'a accueilli dans les années 80, j'étais un peu un exilé contre tout ce que vous rappelez, Thatcher, etc. Je suis venu en France, ce pays m'a accueilli les bras ouverts et j'étais très fier de tenir dans mes mains un passeport français, d'abord à cause de la France, mais deuxièmement parce que je suis profondément européen et ce passeport me permet non seulement d'être français, mais aussi de rester ce que je suis, européen, comme la moitié des Britanniques.
Ouais, quelques questions quand même, on peut pas les éviter sur le Covid quand même. Boris Johnson, on le sait, a vraiment pris ce virus à la légère au départ. Il n'était pas le seul, hein. Johnson a lui-même été malade, il n'est pas le seul non plus. Et voilà que c'est en Grande-Bretagne, un, qu'il y a eu la première personne vaccinée, et deux, qu'est apparu le virus mutant. Vous restez spéciaux, je dis vous parce que vous êtes restés britanniques, vous êtes spéciaux les Britanniques quand même, il n'y a rien à dire.
Bah, si vous voulez, le Brexit, c'est une vaste crise d'identité. Il faut que les Britanniques, ils savent plus qui ils sont. Ils se rendent compte qu'ils sont plus le grand pouvoir qu'ils étaient. Tout ça, c'est une crise d'identité, le Brexit.
Mm-hmm.
Et il faut toujours, si vous écoutez le moindre discours de Boris Johnson, il faut toujours que la Grande-Bretagne soit meilleure que les autres. World beating ceci, world beating cela. Mm-hmm. Il bat le monde entier. Il en a parlé pour le vaccin. Il aura fallu donc que les Britanniques soient les premiers. Évidemment, cette presse brexiteuse ne rappelle pas le fait que le vaccin a été créé dans l'Union européenne et surtout ne rappelle pas le fait que grâce à la puissance de l'Union européenne, les Européens ont pu acheter les doses de ce vaccin, injectées peut-être une semaine plus tard, mais pratiquement moitié moins cher que la Grande-Bretagne isolée. Mais ça, cette presse brexiteuse dont on parlait tout à l'heure, aucune mention.
Ouais. On rappelle que la Grande-Bretagne est très touchée hein, par le Covid, avec à ce jour près de 70 000 morts.
Je crois que l'Italie vient de juste dépasser maintenant, mais pendant longtemps, la Grande-Bretagne, c'était le pays le plus touché. Ouais.
Reste...
C'est parce que vous aviez un Premier ministre qui se félicitait de serrer la main à tout le monde dans les hôpitaux
au
début de la pandémie.
On a vu les images, bien sûr. décidément, aujourd'hui, l'actualité est britannique. Écoutez ça pour finir. Le générique de la géniale série The Crown pour saluer le discours attendu de la reine cet après-midi. C'est toujours un grand moment ça, Alex Taylor, le discours de la reine. Hein,
Je dois dire, avec tout ce que j'ai dit contre la Grande-Bretagne, je suis profondément fier d'être britannique, mais cette Grande-Bretagne que j'ai connue, dont j'étais fier jusqu'à il y a 5 ans, et pour moi c'est vrai que Christmas, c'est aujourd'hui, c'est pas hier. Mm. Je dispute toujours avec des Français, je vois pas pourquoi on le fait la veille de Noël, c'est aujourd'hui. Et depuis que je suis tout petit, enfin la reine est sur le trône depuis plus longtemps que j'existe et je ne suis pas, je suis pas jeune.
Oui, sinon vous seriez un petit peu plus vieux, effectivement, oui.
Voilà, non, mais j'ai 63 ans moi, mais
oh,
elle est là.
C'est rien, ça.
Et Noël, pour moi, c'est 15 heures, le discours de la reine, c'est quelque chose de sacré.
Ah, ça sonne à nouveau là, ça sonne chez vous hein.
Je sais pas, ça doit être des gens qui écoutent européen.
Alex, là, je suis en train de t'écouter à la radio. Que va dire la reine en quelques mots, Alex?
Ah ça c'est un grand secret. Très sincèrement, c'est pas en direct. Ah non, c'est pas en direct. Mais personne ne le sait. Mais je peux vous dire déjà ce qu'elle sait, parce qu'elle commence toujours avec la même chose. Elle dit toujours. It's been a very difficult year. Ça a été une année très difficile. Alors là, cette année, ça va pas rater, hein, j'imagine, parce que là, dans le genre, année difficile, on a guère connu mieux. C'est pas important ce qu'elle dit. Le fait qu'elle soit là, c'est très important.
C'est
le seul pays au monde où il y a le même chef d'État. Émotionnellement, moi qui dis beaucoup de choses mauvaises sur les Brexiteurs, je suis très fier de ce pays qui, quand même, a des symboles. Et là, c'est important, le fait que tous les Noëls, depuis que je suis tout petit, 15 heures, la reine nous parle, lit les mots sur son prompteur chaque année de plus en plus.
Et vous allez la regarder. Bien sûr.
Je vais l'enregistrer.
Voilà, elle est sur le trône depuis 69 ans. Merci beaucoup, Alex Taylor. Merry Christmas à vous. Hein. Et puis, journaliste européen, bonne journée. À suivre dans la seconde heure de Culture Média, les musiciens sont privés de tournée, mais des concerts s'organisent en ligne, y compris pour de bonnes causes. 21h demain sur Facebook, un concert en faveur des enfants d'Arménie. Nous serons en compagnie de la chanteuse Yael Naïm qui y participe. Yael Naïm et son très bel album Night Songs. Les indispensables d'Europe 1 avec Angèle Châtelier, les meilleurs albums de 2020. Et puis avec Joy Raffin, des idées de jeux de société. Bah oui, il faut occuper les enfants maintenant. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.